Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman qui reçoit aujourd'hui le professeur Denis Safran, auteur d'un livre Un toubib dans l'urgence. On a donc compris que c'était un homme impliqué dans l'urgence et je le remercie d'être présent à France Culture. Humaniste, médecin, au charbon, à la réflexion aussi. Enfin, vous allez nous dire tout ça. Bonjour Denis Safran.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine, chef de service depuis 1998 et pour quelques mois encore, jusqu'au 31 août à 23h59. Vous oui. êtes encore donc chef de service du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Pompidou. Et vous êtes d'ailleurs aussi chef du département où il y a beaucoup de monde, vous allez nous raconter ça. Vous avez quand même sous votre coupe un certain nombre de médecins, d'infirmières, d'auxiliaires de toutes sortes qui participent à cette prise en charge très particulière de ce qu'est l'anesthésie-réanimation.
Oui.
Vous êtes aussi, et c'est une des particularités, vous êtes aussi colonel honoraire chez les pompiers, auquel vous avez exercé pendant de longues années des gardes de régulation en particulier à la porte Champéret, ou la clinique Champéret, je sais pas, à côté, par là-bas.
À l'état-major, à Champéret, la caserne de Champéret.
La caserne, voilà, cherchez le mot. Et vous êtes aussi, et peut-être surtout pour l'avenir en tous les cas, médecin-chef du groupe de soutien médical anti-commando, enfin ce qu'on dit la BRI. Et ce point, évidemment, intrigue pour le Quidam de voir comment un médecin tel que vous participez à ce niveau. Et vous nous parlerez, bien sûr, de l'avenir tout à l'heure. Alors, j'ai envie de dire que, en regardant un petit peu votre vie, si on peut la regarder avec un peu de distance, je vois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'histoires d'eau, au sens EAU du terme. Avec deux ponts qui sont distants, on va dire, de 40 années. L'un se passe, vous êtes sur un pont en 68, vous êtes sur un autre pont en 2008, vous êtes au-dessus de la Seine, et il y a deux accidents qui se passent, et vous n'hésitez pas, par deux fois, vous allez plonger dans la Seine pour sauver quelqu'un. Oui. Alors, c'est quand même pas banal et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ces deux histoires.
Écoutez, la première fois, j'étais étudiant en médecine et je m'en rendais à la faculté pour prendre un cours en début d'après-midi. C'était un après-midi de début de printemps, donc je m'arrête pour prendre un café, place de l'Hôtel de Ville, au coin du quai. Et je vois un attroupement sur le pont de l'Hôtel de Ville. Alors, comme je suis d'un naturel un peu badaud, je me dis, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, je me rends sur le pont et, en effet, je vois que dans l'eau, s'était jeté une femme. Et d'ailleurs, un policier qui avait rejoint cette femme à partir de la voie sur berge et qui tentait désespérément de la rejoindre. Et donc, je dois dire que je me suis déshabillé quand même parce que j'avais quelques respects pour mon costume, mais costume aura été perdu parce qu'il aura été finalement piétiné par la foule. Et j'ai donc plongé, j'étais bon nageur, très jeune à l'époque, et j'ai donc plongé à l'eau pour rattraper cette femme et le policier d'ailleurs. Puis la brigade fluviale nous a rejoints, nous a ramenés à la berge, et voilà comment ça s'est passé.
Donc ça, c'était votre 68 à vous, enfin une voilà. partie du 68 à
une
vous.
Une partie du 68, parce que je dois dire que le 68, par ailleurs, était très actif, et j'étais avec beaucoup de mes camarades dans la rue.
Donc, mais enfin, le fait d'être dans la rue vous a permis de voir l'eau.
Voilà, et puis, mais en, puis en plus, quand même, c'était un moment un peu paradoxal, puisque rappelez-vous qu'à l'époque, M. Raymond Marcellin était ministre de l'Intérieur et qui était voué aux gémonies par les...
Mais vous allez garder contact avec les ministres de l'Intérieur, on y reviendra tout à l'heure en fin d'émission.
Et M. Raymond Marcellin m'a remis une médaille pour acte de courage et de dévouement, ce qui était quand même un paradoxe, puisque j'avais quand même proféré quelques termes peu élégants envers M. Raymond Marcellin dans les semaines précédentes.
Alors, pour clore un peu cette histoire, clore non, mais enfin disons, deuxième épisode se passe donc 40 ans plus tard, et vous êtes également sur un pont, et là, par contre, vous êtes presque en mission, vous regardez...
Alors là, je ne suis pas exactement sur un pont, je suis sur le remorqueur de la brigade fluviale, qu'on appelle le remorqueur Île-de-France, et là, nous devions assister à une démonstration effectuée par la brigade fluviale et par une unité d'intervention célèbre, qu'on appelle le RAID, avec cette intervention en partie aquatique, et là, il y a eu un accident entre deux Zodiacs, et un fonctionnaire du RAID a été... extrêmement blessé.
Mais il était dans l'eau.
Mais il était encore dans le Zodiac, lequel était en train de couler. J'étais donc sur le remorqueur. Le remorqueur s'est approché et voyant ce policier blessé, hurlant de douleur, et on comprenait pourquoi, avec un risque quand même de lésion de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle le rachis, je me suis dit qu'un médecin devait le prendre en charge immédiatement. J'ai donc déclenché les secours par le truchement de la brigade de sapeurs-pompiers. Effectivement, j'ai sauté à l'eau pour rejoindre le Zodiac et essayer de prodiguer les premiers soins, au moins à titre conservatoire, à ce fonctionnaire de police.
Alors, sur cette histoire de votre attirance vers l'eau, évidemment, elle se caractérise aussi par le fait que vous habitez sur l'eau, puisque vous habitez sur une péniche, c'est connu du monde médical, puisque vous êtes en face, ou quasiment en face, de l'hôpital Pompidou où vous exercez, ce qui vous fait un aller-retour assez rapide.
Oui.
Et ce qui vous fait aussi considérer, vous l'avez déclaré, qu'il n'y avait pas de séparation étanche, toujours le mot aquatique, entre votre vie privée et votre vie professionnelle, que vous étiez à la disposition, autant que faire se peut, de répondre aux demandes, aux urgences en particulier.
Tout à fait, ça fait maintenant 25 ans que je vis sur l'eau, sur divers bateaux. J'ai habité pendant quelques années au port de l'Arsenal à la Bastille. Et j'ai déménagé, tout simplement, au pied de l'hôpital Georges Pompidou. J'ai suivi le courant, je suis allé en aval du port de l'Arsenal pour rejoindre l'hôpital Georges Pompidou lorsque celui-ci a ouvert, juillet 2000. Et donc je me suis installé au pied de l'hôpital, ce qui n'était pas très facile, parce que les places sur la Seine sont comptées, mais d'aucuns ont considéré que d'avoir le chef de service d'anesthésie-réanimation de cet hôpital en cours d'ouverture, à proximité immédiate, pouvait présenter quelques avantages. Donc je me suis installé là, effectivement, je suis à peine à 150 mètres de mon lieu de travail, ce qui me permet de me rendre à Pompidou quand c'est nécessaire, y compris la nuit, sans que cela me coûte, puisque c'est facile de me déplacer, de revenir même chez moi.
Alors, autour de cette problématique, il y a une problématique personnelle qui a été ces histoires qu'on a racontées, mais aussi une problématique plus sérieuse, c'est-à-dire la prise en charge médicale des noyés. Parce que, toujours le problème de l'eau, mais vous êtes intervenu aussi pour donner des directives avec deux concepts un petit peu, si j'ai bien compris, hein, Denis Safran, c'est-à-dire de... Soit on est sur place et on fait le maximum de choses sur place, concept un peu français ou européen de certaines d'autres pays, soit un concept plus anglo-saxon qui dit on dirige tout de suite d'emblée le patient, quel qu'il soit, où que ce soit, le plus rapidement possible dans le centre spécialisé. Et là, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'interventions qui se font sur place, en particulier dans les accidents de la route, enfin une première partie de l'intervention. Et là, vous êtes intervenu, vous, personnellement, sur l'analyse de la situation particulière de l'hypothermie des noyés, pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Oui, exactement. Alors, l'idée m'en est venue parce que l'hôpital Georges Pompidou est au bord de la Seine, et que moi-même, habitant sur la Seine, je voyais un jour de mon bateau un ponton, Je me suis dit, après tout, ces noyés, si nous les prenions en charge différemment, parce que le noyé hypotherme, l'objectif n'est pas de le réanimer sur place, mais de le conduire très rapidement dans un service spécialisé, entraîné à mettre en place le plus rapidement possible ce qu'on appelle une circulation extracorporelle qui va permettre de suppléer la défaillance cardiaque et de procéder à un réchauffement très progressif jusqu'à reprise de l'activité cardiaque. Alors, sur la Seine, il y a la brigade fluviale de la police avec des bateaux très rapides. Il y a également un centre de secours de la brigade de sapeurs-pompiers qui se situe au Pont-Neuf avec des bateaux équipés pour faire du secours à victimes. Et je me suis dit, après tout, si les pompiers ou la brigade fluviale prenaient en charge un noyé très rapidement, nous l'amenaient par voie fluviale, ce qui est beaucoup plus rapide que par voie terrestre, l'amenaient très rapidement à Pompidou, qu'on prenne en charge ce malade, comme l'on dit, sans régulation, c'est-à-dire sur simple appel. Lorsque la police ou les pompiers nous disent « noyé en Seine », eh bien, nous acceptons le malade, quelles que soient les circonstances. Et je me suis dit que l'arrivée serait extrêmement rapide. Ce qu'il faut savoir, vous savez que entre, disons, le pont Charles de Gaulle et l'hôpital Georges Pompidou, en Zodiac, on met environ 8 à 9 minutes. Ce qui, par la route, évidemment, ne peut pas arriver, surtout à certaines heures de fort trafic. Voilà d'où est partie l'idée. Donc, avec mes collaborateurs, nous avons mis en place un protocole de prise en charge des noyés que nous avons soumis aux médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous avons soumis ce protocole à la brigade fluviale et au centre de secours de la brigade. Nous l'avons soumis, d'ailleurs, également au SAMU de Paris, et il y a quelques années, nous avons signé un protocole avec le préfet de police et le SAMU de Paris pour l'adressage direct de ces noyés.
Ça a été difficile, cette bataille-là, vous le témoignez un peu dans votre livre, oui, à Douville dans l'urgence, oui. Un peu comme une bataille.
Ça a été un peu difficile, parce que, si vous voulez, nous allions un peu en l'encontre de ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir la conception française de la prise en charge des victimes. Par le SAMU en particulier, l'ambulance se déplace, on considère que c'est un hôpital sur roues, et donc on prend en charge le patient sur le terrain jusqu'à stabilisation, et ensuite on le transporte, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, comme vous l'avez dit, où on jette, si vous me passez l'expression, le patient dans une ambulance, prise en charge d'ailleurs par des paramédicaux et qu'on les amène le plus vite possible à l'hôpital. Ma conception est la suivante. Vous savez, dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Je pense que la vérité se situe entre ces deux types de prise en charge et tout dépend du type de blessé. Et parfois, je pense qu'il est certaines pathologies, surtout lorsqu'on est à Paris. Et à Paris, on n'est nulle part à plus de 10 minutes d'un hôpital, et même d'un grand hôpital. Je pense que pour certaines pathologies, cela mérite que le patient soit pris en charge très rapidement dans un véhicule et amené dans un centre spécialisé, où on sera beaucoup plus à l'aise pour prendre en charge un patient difficile, plutôt que sur le trottoir, dans un service de réanimation, avec des infirmières spécialisées, parfaitement rodées à cette prise en charge, et des médecins réanimateurs, avec tous les appareils que nous avons à notre disposition.
Mais est-ce que ça fait des petits dans d'autres endroits de France et de Navarre?
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
C'est fréquent, ces accidents par noyade?
Alors, des noyés, il y en a beaucoup. Malheureusement, beaucoup ne parviennent pas à l'hôpital, parce qu'ils sont vraiment noyés. Nous, dans notre service, nous en recevons environ une douzaine par an. Et je dois dire que même avec les soins les plus spécialisés, les plus attentifs, la mortalité est quand même très importante.
Quand même lourde. Alors, vous voilà donc, comme je l'ai dit pour commencer, Denis Safran, vous êtes chef de service d'anesthésie-réanimation, vous êtes aussi colonel honoraire chez les pompiers, et avant qu'on aborde la troisième partie de votre rôle de médecin dans les anti-commandos, enfin le groupe de soutien médical du BRI, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette anesthésie-réanimation qui, à l'époque, était d'ailleurs balbutiante, enfin pas balbutiante, mais quand même, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui?
Alors, sans passer beaucoup de temps, moi, lorsque j'ai fait mes études, et j'ai décidé de passer l'internat pour être chirurgien. Et à l'époque, pour être chirurgien, il était indispensable d'être interne des hôpitaux, de Paris en l'occurrence, en ce qui me concerne. Je me suis aperçu très rapidement que le métier de chirurgien risquait de me lasser assez vite parce que j'ai besoin de renouvellement permanent. Je voulais être chirurgien cardiaque et j'ai pensé que peut-être, après avoir posé une cinquantaine de valves cardiaques, l'exercice me paraîtrait ennuyeux. Je me trompe peut-être, je ne l'ai jamais fait. Donc je me suis dirigé plutôt vers la réanimation. Après avoir eu une solide formation de cardiologue et de pneumologue, ce qui est nécessaire pour un réanimateur, parce que la réanimation, c'est en quelque sorte de la médecine générale, puisque l'ensemble des organes peuvent être mis en jeu, c'est une sorte de médecine générale en période aiguë, chez des patients immédiatement menacés, et donc c'est un renouvellement permanent, puisque nous voyons un très grand nombre de pathologies, il y a une intrication de désordre des différents organes, c'est quasiment de la médecine interne, comme l'on dit, en période aiguë, voire suraiguë.
Et donc, vous allez faire une progression en rencontrant un certain nombre d'hommes qui vont vous marquer énormément. Donc, parlez-nous un peu de Papa Hôtel.
Ah, Papa Hôtel. Le professeur Pierre Huguenard. Le professeur Pierre Huguenard, qui a une carrière remarquable, qui fut médecin militaire en Indochine, qui a mis au point avec son collègue et ami Henri Laborie un certain nombre de notions de prise
théorie,
en charge,
on va dire, ou de théorie ou
de théorie et de pratique, parce que Henri Laborie était plutôt théoricien, c'était beaucoup un homme de laboratoire, et Pierre Huguenard mettait en application ces notions sur le terrain, en particulier sur le terrain en période de guerre. Et j'ai rencontré Pierre Huguenard, qui était à l'époque chef de service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Henri Mondor, au début de mon internat, mais il avait aussi créé le SAMU du Val-de-Marne, ce qu'on appelle le SAMU 94, et donc j'ai pu me former au contact de Pierre Huguenard à l'anesthésie réanimation, mais en même temps au SAMU, à la prise en charge des patients à l'extérieur de l'hôpital, à une période où les SAMU étaient à leur tout début. Alors c'était un personnage extrêmement haut en couleur, très difficile à vivre, mais absolument passionnant. Il était aussi exigeant avec lui-même qu'avec ses collaborateurs. Moi, je l'ai toujours vu arriver à l'hôpital à 6h30 le matin, repartir à 22h le soir, y être le samedi, le dimanche. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote, lorsque je suis arrivé dans son service, je lui ai demandé si le 11 novembre je devais venir. Il m'a demandé immédiatement si j'étais ancien combattant. Alors je lui ai dit non, bien sûr. Il m'a dit donc tu es là le 11 novembre, comme tous les autres jours d'ailleurs.
Et pourquoi Papa Hôtel ?
Alors Papa Hôtel, parce qu'il avait la radio à bord de sa voiture, il pouvait communiquer avec le SAMU, et les initiales de Pierre Huguenard, c'est PH, donc Papa Hôtel, en langage international, et lorsqu'il arrivait à 5 minutes de l'hôpital Henri Mondor, il s'annonçait, Papa Hôtel à l'entrée de l'hôpital.
Donc tout le monde se mettait au garde à vous.
Et tout le monde se mettait au garde à vous. Et je dois dire, beaucoup commençaient à trembler parce que nous allions faire le bilan de ce que nous avions fait dans la nuit. Avec un œil extrêmement critique, nous allions être jugés.
Donc c'est un mode de formation incontestable.
Absolument.
Et alors, vous voilà donc lancé dans, comme je disais, dans la saisie animation. Alors, parlez-nous un petit peu du métier avant de... C'est-à-dire, la période difficile, on dit l'endormissement, le réveil. Finalement, tout le monde a peur d'un essai général. Est-ce que c'est justifié?
Je dirais que c'est justifié. C'est de moins en moins justifié parce que nos techniques progressent. Vous savez, au début de l'anesthésie, les médicaments que nous utilisions avaient une certaine tendance à tuer les malades les plus graves, disons, au moins ne pas améliorer la situation. Aujourd'hui, la situation est évidemment extrêmement différente. Alors l'anesthésie-réanimation, c'est pas un métier, c'est plusieurs métiers. Il y a l'anesthésie, Il y a l'évaluation de l'état du patient avant l'anesthésie, ce qu'on appelle la consultation pré-anesthésique. Il y a l'anesthésie en elle-même. Il y a la surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle, qu'on appelle communément une salle de réveil. Il y a la prise en charge en réanimation. Il y a les soins des patients en salle d'hospitalisation de chirurgie après leurs interventions. Il y a la prise en charge de la douleur. Donc c'est un métier à multiples facettes. Et tout au long d'une carrière, vous pouvez quasiment changer de métier très régulièrement tout en restant dans la même spécialité.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Et alors, il va se passer une date importante dans votre spécialité, celle du 8 décembre 1994, où il va y avoir un décret qui va instaurer justement la nécessité d'avoir une consultation de pré-anesthésie. C'est vrai qu'on a du mal à se dire, mais parce qu'avant, il n'y en avait pas.
Alors, pas seulement la consultation, si vous voulez. La Société française d'anesthésie-réanimation avait publié de nombreux textes sur la sécurité anesthésique. Quelles sont les conditions qui permettent d'effectuer une anesthésie dans les meilleures conditions de sécurité pour le patient? Alors, il y avait deux conditions essentielles. Pas seulement ces deux-là, mais il y en avait deux essentielles. C'était l'évaluation de l'état du patient avant l'anesthésie, c'est-à-dire de faire le bilan de ses autres pathologies. Est-il cardiaque? Est-il diabétique? A-t-il des traitements? De façon à amener le patient au bloc opératoire avec le traitement optimal, de façon à ce qu'il soit le mieux équilibré possible pour subir cette agression qu'est l'anesthésie et la chirurgie. Il n'y avait pas vraiment de consultation pré-anesthésique, en tout cas elle n'était pas obligatoire. Et les chirurgiens en général voyaient leurs patients, ne les adressaient même pas à l'anesthésiste, lequel découvrait le patient au mieux la veille au soir de l'intervention, et mais bien souvent en général à l'arrivée au bloc opératoire. Et puis ce décret a imposé un élément essentiel qui est la salle de surveillance post-interventionnelle, que nous appelons SSPI, qui n'est autre que la salle de réveil, où doivent obligatoirement, depuis ce décret, passer les patients au sortir de la salle d'opération. Et c'est là que nous allons les surveiller, cliniquement, mais également à l'aide d'appareils, jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions vitales ait été recouvré, qu'on considère que le patient est quasiment revenu à l'état antérieur et que, en toute sécurité, il peut retourner dans sa chambre. Alors, cela est basé sur une observation, c'est que, avant l'existence de ces salles de réveil, il y avait une complication assez fréquente qui est ce qu'on appelle la recirculation des drogues anesthésiques. C'est-à-dire, le patient se réveille, il y a des médicaments anesthésiques qui sont stockés dans différentes parties de l'organisme, dans les graisses en particulier, et au bout d'un certain temps, alors que le patient se réchauffe, que la douleur se calme, eh bien une recirculation, un repassage dans le sang de ces médicaments avec un réendormissement secondaire. Réendormissement secondaire avec une dépression ventilatoire pouvant aller jusqu'à l'apnée, c'est-à-dire l'arrêt de la respiration et le décès du malade. Et bon nombre de patients étaient retrouvés dans leur chambre, sans surveillance bien entendu, puisque dans une chambre de chirurgie, on les a retrouvés décédés justement par manque de surveillance. Donc, obligation de la salle de réveil où le patient est surveillé par des infirmières spécialement entraînées, par des médecins anesthésistes réanimateurs, surveillance clinique, surveillance avec des appareils, électrocardioscope, mesure de la saturation du sang en oxygène, etc., qui permet, s'il se produit des incidents, d'y pallier sans délai.
Immédiatement.
Auquel cas, l'incident devient tout à fait bénin.
Et alors, après ce décret, donc fondateur de cette sécurité, on va dire, il y en a un autre aussi, un arrêté une année plus tard, donc ça fait 20 ans tout ça, c'est la vérification obligatoire du matériel, une espèce de checklist avant de prendre l'avion, on vérifie tout, et là, une espèce de régularité sur la disponibilité du matériel, justement, si on est amené à intervenir en urgence, c'est bien ça?
Absolument. Alors, évidemment, nous utilisons beaucoup d'appareils en anesthésie-réanimation. C'est un métier très technique. Des appareils qui permettent d'administrer les médicaments de l'anesthésie, que ce soit des médicaments intraveineux ou des médicaments gazeux par les poumons. Des appareils de surveillance, de la tension, de la pression artérielle, de la saturation du sang en oxygène. Enfin, tout un tas d'appareils qui, bien entendu, doivent être vérifiés le matin lorsqu'on arrive, il y a une vérification générale, et ensuite des vérifications entre chaque patient pour s'assurer que tout le matériel fonctionne et qu'il ne risque pas de survenir de façon inopinée un dysfonctionnement qui mettrait le patient en danger. Donc cet arrêté a complété le décret. Nous devons, comme un pilote d'avion, faire une checklist avant de prendre le malade en charge pour s'assurer que tout est en place, que les protocoles sont parfaitement applicables dans leur intégralité.
L'évolution aussi que vous avez vue dans ces 30 glorieuses, ces 30 dernières années là où beaucoup de choses se sont passées en médecine, accélérées en tous les cas, c'est aussi le développement de l'anesthésie locale, loco-régionale, à la place de l'anesthésie générale. Vous êtes toujours sur cette tendance à remplacer autant que faire se peut une anesthésie générale par une anesthésie loco-régionale à confort égal, on va dire, ou quasiment, ou peut-être supérieur d'ailleurs.
Bien sûr, si vous voulez, il y a un certain nombre d'interventions qui n'offrent pas de choix. L'anesthésie générale est indispensable. Par exemple, une transplantation cardiaque, pour aller à l'extrême, une transplantation pulmonaire, une chirurgie...
Encore que les Chinois faisaient sous acupuncture au de Mao Tse-Tung, c'était une grande propagande.
Absolument, mais on a même fait beaucoup de chirurgie sans anesthésie du tout. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais il y a un certain nombre de chirurgies, en particulier dites périphériques, par exemple chirurgie des membres, qui offre l'opportunité de faire ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire de rendre insensible simplement le membre considéré par la chirurgie. Alors l'avantage de cette anesthésie loco-régionale, lorsqu'elle est possible, c'est d'éviter d'abord l'anesthésie générale avec ses conséquences, une récupération beaucoup plus rapide, et vous savez que nous sommes à une ère aujourd'hui où on développe ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour, la chirurgie ambulatoire, et bien ça permet dans nombre de cas aux patients d'arriver le matin, de bénéficier de cette chirurgie et de cette anesthésie loco-régionale et de repartir très rapidement à domicile.
Et Denis Safran, est-ce que vous pensez que des approches un peu plus open, ouvertes, comme l'hypnose par exemple, a sa place dans le bloc opératoire ou la réanimation ?
A sa place certainement. Moi je pense que ça ne pourrait être qu'un adjuvant. Ça demande également du temps pour le mettre en place. Et vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les hôpitaux, le temps nous est compté. On dit le temps, c'est de l'argent. Eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui dans les hôpitaux. Il faut aller très vite. Beaucoup de rendement, beaucoup de malades, beaucoup d'activités du bloc opératoire, pas de perte de temps. Évidemment, des techniques comme celle-ci qui demandent du temps, du calme, du silence, une relation assez étroite avec le patient. Je vois mal comment dans nos hôpitaux ceci pourrait être mis en œuvre. Alors je n'en ai pas une expérience personnelle.
Parce qu'il y a quand même quelques centres ici ou là, et en Belgique et en France d'ailleurs, parce que nous avons eu l'occasion d'interviewer certaines personnes. Mais c'est peut-être intéressant comme moyen de réflexion et peut-être d'ailleurs de contrebalancer un petit peu ce côté rentabilité, d'ailleurs, que vous dites dans votre livre « Un toubib dans l'urgence », quand on va en reparler tout à l'heure, Denis Safran, quand vous critiquez les 35 heures, la T2A et le mode d'organisation actuel.
Absolument. Mais je pense que ces techniques sont certainement intéressantes, mais je pense qu'on est quand même dans le domaine de l'adjuvant. Mais je suis prêt à changer d'avis lorsque cela sera utilisé à plus grande échelle et on pourra démontrer leur réelle utilité.
Alors, vous avez à peu près 300 personnes sous votre responsabilité.
Alors, j'ai un peu moins de 300 personnes, mais pas beaucoup moins, dans mon service, composé de médecins anesthésistes réanimateurs, médecins non anesthésistes réanimateurs, qui travaillent en particulier dans le centre de prise en charge de la douleur, qui fait partie de mon service, psychiatres, des psychologues, non médecins, rhumatologues, spécialistes, je dirais même de l'acupuncture. Vous voyez que je suis très ouvert aux techniques un peu alternatives. À côté de ces médecins, il y a des infirmières spécialisées, qu'on appelle les infirmiers anesthésistes, diplômés d'État, qui sont spécialisées pour exercer au bloc opératoire et seconder le médecin dans le geste anesthésique. Des infirmières diplômées d'État, qui travaillent en salle de réveil et en réanimation, qui sont spécialement formées à cet exercice. Des aides-soignantes, des secrétaires, enfin tout ça fait des cadres infirmiers, bien entendu. Tout ça fait entre 280 et 290 personnes. Un petit village.
Un petit village.
Say you wanna party, say you wanna dance. You better know someone.
Révolution médicale, une émission de René Friedman, aujourd'hui sur les urgences, le médecin des urgences et le bonheur de recevoir le professeur Denis Safran, un toubib dans l'urgence. Et pour cela, nous avons illustré la musique avec Icona Pop pour Emergency, qui était bien sûr l'appel à l'ambulance en anglais, mais on a bien compris que c'était urgent en tous les cas. Vous voilà donc dans ce grand service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Le Pompidou que vous dirigez, donc c'est presque 300 personnes. Et moi j'aimerais savoir, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous avez voyagé aussi, vous avez été au Caire quand le chat d'Iran est décédé, vous étiez présent à ce moment-là, il s'est trouvé. Vous avez été aussi dans une histoire un peu rocambolesque pour amener le prince Souvanafuma du Laos qui avait besoin d'être traité. Vous avez été aussi en Corée du Nord pour voir une personne qui était dans le coma, une femme, dont vous n'avez su qu'après coup que c'était la femme du dirigeant suprême. Donc des histoires où se mêle, on va dire, la médecine, bien sûr, puisqu'on vous êtes là pour le soutien médical que vous pouvez apporter, et là, on dirait comme tout médecin, sans distinction, n'est-ce pas, de personne, hein, vous apportez votre savoir, et puis aussi vous avez été confronté donc un peu à cette clandestinité, je dirais, par rapport à l'identité, aux personnes. Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, je dirais, ce côté aventure un peu qui vient, comment dire, se surajouter au problème de savoir si c'est une pneumonie ou si c'est, il avait vraiment une pleurésie, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Par exemple, vous évoquez, vous n'êtes pas le seul, à évoquer quand même une position des Américains vis-à-vis du chat d'Iran qui était véritablement presque une conduite au suicide.
Oui, on peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça, c'est-à-dire que la position des médecins américains qui s'opposaient aux médecins français que vous étiez avec votre collègue pour la conduite à tenir était en deçà de toute ligne médicale habituelle et l'amenait incontestablement au décès.
Absolument. Rappelons-nous la situation de l'époque où le chat d'Iran était un peu comme le juif errant, c'est-à-dire qu'il allait de pays en pays pourchassé par les Américains. Je vous rappelle qu'il y avait les otages américains prisonniers et retenu par l'ayatollah Khomeini, qui avait dit qu'il rendrait les otages si on lui apportait le Shah d'Iran mort ou vif. Par conséquent, il n'y avait pas une grande propension, si je peux le dire de façon un peu euphémique, à soigner le Shah d'Iran de façon extrêmement efficace, et que, ma foi, eu égard à son état, si les choses pouvaient aller un peu plus vite que ce qu'il apparaissait, ça pourrait changer un peu l'aspect des choses au plan politique. Or, le Shah d'Iran était pris en charge par les médecins américains au Caire, et c'est la famille du Shah, et en particulier son épouse, qui a fait appel à des médecins français parce qu'elle sentait que les choses ne se passaient pas très bien. Et de fait, nous nous y sommes rendus avec un de mes collègues chirurgiens, et nous avons fait un diagnostic très facile, ce n'était pas une gloire, hein. Le diagnostic était vraiment très facile, qui était évidemment extrêmement différent de celui fait par les Américains. Diagnostic qui nécessitait une intervention chirurgicale en urgence, à laquelle s'opposaient d'ailleurs les Américains. Et Faradiba a tranché, a dit les médecins et chirurgiens français vont l'opérer. Nous l'avons opéré, effectivement. C'était le bon diagnostic.
Et il fallait l'opérer. Oui, alors ce côté, ce mélange médecine et politique, si je puis dire, qui n'est pas tout à fait banal dans le terrain, enfin sur le terrain, vous le retrouvez avec ce groupe d'intervention anti-commando. Vous étiez parmi la colonne qui a pris d'assaut l'hypercachère il y a donc quelques mois. Oui. Et vous étiez le médecin donc qui accompagnait ces forces de l'ordre. Comment se passe pour vous intérieurement, je dirais, ce type d'action?
Alors déjà, je vais faire un petit rectificatif. Je n'étais pas le seul médecin. La brigade de recherche et d'intervention qu'on appelle la BRI, ou la brigade anti-gang, en formation anti-commando, c'est-à-dire mise en place pour faire face à ce type d'événement, est médicalisée depuis 2011. J'ai organisé cette médicalisation avec des médecins, tous militaires, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je pense qu'il faut avoir une formation particulière pour exercer cette activité. Et de fait, lorsque la BRI, ou a fortiori, lorsqu'elle est en formation anti-commando, intervient, dans les colonnes d'assaut, il y a toujours un médecin prêt à pratiquer les premiers soins. C'est comme pour les militaires, la médecine de l'avant. Parce qu'on sait très bien que les blessures balistiques, par exemple, entraînent une mortalité importante, et que cette mortalité est de l'ordre de 50% dans les 30 premières minutes, d'où la nécessité d'avoir un médecin immédiatement à proximité, capable de prodiguer les premiers soins, parce qu'il est entraîné, je dirais, à ce type de médecine un peu de guerre.
Bien sûr.
Le deuxième rôle du médecin, c'est de déclencher la chaîne de secours, d'effectuer l'extraction du blessé, de déclencher la chaîne de secours sur la plaque parisienne, comme on dit, par l'intermédiaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Que ressent-on dans ces moments-là? J'oserais presque vous dire, sans forfanterie, qu'on ne ressent rien. On ne ressent rien sur l'instant parce que on a bien le sentiment, alors évidemment il y a la poussée d'adrénaline quand même, on est en situation dangereuse, on sait qu'il y a des otages, que ces deux otages sont en danger, que nos camarades policiers sont en danger. Alors nos camarades policiers, le terme camarade n'est pas un vain mot, nous sommes très liés avec eux, sont en danger, risquent d'être tués, que nous-mêmes d'ailleurs pouvons prendre une balle perdue ou même pas perdue d'ailleurs. Mais néanmoins, sur le moment, on ne ressent pas grand-chose. En tout cas, moi, je ne ressens pas grand-chose, parce qu'on est là pour faire le travail. Et avant tout, l'objectif, c'est d'être dans cette colonne d'assaut, de participer à l'action avec les policiers, qui, eux, sont armés, contrairement à nous, et d'être totalement disponible pour faire le travail. Alors, après, évidemment, il y a l'émotion normale de tout être humain. Vous savez, lorsque nous sommes entrés dans l'hypercachère et que nous avons vu tous ces pauvres otages qui avaient été exécutés, il est bien évident que la peine est immense et que nous le ressentons. Mais dans l'action, l'objectif, c'est d'être efficace et nous sommes formés pour cela. Vous imaginez bien que si au moment de l'action, nous commencions à avoir des états d'âme, je pense qu'il faudrait changer de médecin.
Mais comme structure, ça se passe comment? Vous avez défini un nombre de médecins par... par équipe de commando, enfin comment
alors,
la proportion c'est
alors si vous voulez le, la,
et l'infrastructure la derrière
brigade, la brigade anti-commando est formée de colonnes d'assaut différentes et en principe dans la mesure de nos moyens évidemment nous essayons de mettre un médecin dans chacune des colonnes d'assaut sauf si les colonnes sont très rapprochées les unes des autres et de plus il y a un médecin coordonnateur qui est un médecin de ce groupe et qui va assurer la communication entre les médecins de colonne qui sont dans une zone que nous disons une zone d'exclusion où aucun autre médecin ne rentrera. Aucun autre médecin que les médecins de police ne pourra rentrer. Nous pouvons rentrer tout simplement parce que nous sommes entraînés, parce que nous sommes habillés comme les policiers, c'est-à-dire que nous avons une tenue de protection balistique. Donc, premier soin, assurer l'extraction, et puis assurer la communication avec les secours qui sont en zone sécurisée.
Vous avez exercé la fonction de colonel des sapeurs-pompiers. Pourquoi est-ce qu'en plus de votre service de réanimation, d'anesthésie-réanimation, vous vouliez avoir un pied dans ce type d'activité ?
Chez les sapeurs-pompiers, il s'agit d'une médecine dite pré-hospitalière, c'est-à-dire la prise en charge des patients avant l'hôpital, qu'il s'agisse de victimes, d'accidents de la voie publique, accidents de deux roues, accidents de voiture, personnes défenestrées, personnes victimes de brûlures dans un incendie, personnes victimes de plaies par balle ou plaies par coup de couteau, c'est assez fréquent à Paris. Donc c'est une prise en charge dite pré-hospitalière, et l'expérience de cette prise en charge pré-hospitalière complète l'expérience de la prise en charge intra-hospitalière. Donc c'est un complément. Alors vous me direz, j'aurais pu faire ça au SAMU, qui est une unité civile, sauf que là, moi, j'étais réserviste dans l'armée, et réserviste pour aller faire de l'anesthésie dans un hôpital militaire, ma foi, ça ne m'apportait pas grand-chose, puisque j'aurais fait la même chose que dans mon hôpital.
Alors que là, vous jouiez sur une régulation, sur une organisation.
Voilà. Et puis, dans un corps prestigieux, où il y a diverses spécialités, et qui est directement au service du public.
Il y a un service médical au niveau des sapeurs-pompiers ?
Bien sûr, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle un 3SM, je cite le mot, parce que c'est le mot officiel.
Que nous apprenions cela.
Voilà, ce qui dépend du service de santé des armées. Hein, ce sont des médecins militaires qui sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers. C'est extrêmement structuré, avec une coordination au niveau du centre d'appel, qu'on appelle le 18, hein. Vous appelez le 18, vous tombez sur ce centre, au niveau de l'état-major, à la caserne Champéret, où là, tous les appels qui concernent la médecine aboutissent à un médecin qui, lui, va faire la coordination et qui va pouvoir envoyer ce qu'on appelle des moyens de secours qui peuvent aller du simple véhicule de secours à victime, équipé par des pompiers, qui sont également secouristes, jusqu'à l'ambulance de réanimation, qui va être équipée d'un conducteur, mais également d'un médecin urgentiste particulièrement formé et accompagné d'un infirmier également formé à cet exercice.
Alors, professeur Denis Safran, nous avons le 18, nous avons le 15 aussi pour le SAMU.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les appels et d'une façon générale, la gestion des urgences est problématique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'appels qui sont inutiles, il y en a beaucoup qui sont utiles, mais d'autres qui encombrent un petit peu, qui ne devraient pas aboutir ici.
Bien sûr, bien sûr. Il y a énormément d'appels, je dirais, qui sont des appels indus. D'abord, de gens qui appellent simplement parce qu'ils ont un renseignement à demander ou qui émettent une plainte extrêmement modeste. D'autres qui se trompent d'aiguillage, si j'ose dire. Enfin, il y a un recours. C'est tellement facile de faire le 18, mais comme on fait également le 17, la police, voire même le 15, c'est extrêmement facile. Donc, il y a un recours tellement facile à l'appel au secours pour des secours qui sont très souvent totalement inutile, que évidemment ces services de secours sont totalement débordés. Alors, on travaille, la brigade de sapeurs-pompiers en particulier, travaille beaucoup sur le sujet pour faire ce qu'on appelle des arbres décisionnels, pour savoir quand on part, quand on y va, ou quand finalement, quand finalement on n'y va pas, et qu'on envoie d'autres moyens, voire même rien du tout, parce que vous savez, parfois c'est tellement fantaisiste que... Mais voilà, donc tout est fait pour faire un tri dans ces appels, et bien entendu, dès qu'il y a le moindre sentiment de, je dirais, de la moindre gravité, on y va. C'est ce qu'on a pour faire au moins ce qu'on appelle une levée de doute.
Est-ce qu'il y a une amélioration de gestion, de faire la levée du doute, comme vous dites, pour savoir si on ne passe pas à côté de quelque chose de grave ou pas ?
Alors, je tiens à préciser quand même, je ne suis pas chef de service des urgences.
Oui, mais vous voyez arriver...
Je suis chef de service d'anesthésie réanimation,
bien
mais
sûr.
Les urgences, je connais bien, je connais bien. Alors, effectivement, il y a un afflux énorme aux urgences. Si vous voulez, quand j'ai commencé ma carrière, moi j'étais interne de garde aux urgences une à deux fois par semaine, et disons dans la nuit, quand la situation était tendue, comme nous disions, nous voyons 5, 6, 10 malades aux urgences. Aujourd'hui, il en passe 200 par jour. Alors évidemment, il y a un recours aux urgences. Ce recours aux urgences d'abord parce que, comme vous le disiez, c'est facile. C'est facile d'aller aux urgences, c'est facile, et puis alors c'est très complet, parce que quand vous allez aux urgences, vous êtes à peu près sûr d'être vu par un médecin, non, vous êtes sûr d'être vu par un médecin, mais vous êtes à peu près sûr d'avoir dans la foulée la radio qui va bien, les examens biologiques, et tout un tas de choses comme ça, que si vous alliez voir votre médecin de quartier, il vous ferait des ordonnances, il faudrait vous déplacer. Donc vous avez le paquet complet. Alors évidemment, ça va être long, ça va prendre quelques heures, c'est la rançon du succès des urgences. Mais quand vous allez ressortir de là, finalement, on aura fait le tour, vous aurez vu votre radio, vos examens de sang, et puis l'affaire va être réglée. Mais enfin, tout de même, il ne faut pas rejeter la faute sur le patient qui se présente aux urgences à tous les coups. Il faut bien voir que toutes les structures, je dirais, qui situées en amont des urgences ont beaucoup disparu. Je vous donne un exemple concret. Au début de ma carrière, pendant mon internat, dès que j'ai été autorisé à faire des remplacements, j'ai fait des remplacements de médecine générale. C'est assez banal, mais surtout, j'ai fait un remplacement assez long dans un dispensaire de quartier, au but de Chaumont, quartier très populaire. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce dispensaire ? Eh bien, vous aviez toutes les grands-mères du quartier qui venaient pour se faire prendre la tension, pour se faire faire une injection, pour soigner une petite plaie, pour soigner l'eczéma. Tous ces gens-là, aujourd'hui, où vont-ils pour le faire ? Ils vont aux urgences. Il n'y a plus ces dispensaires de quartier, qui, d'ailleurs, de plus, avaient un rôle social très important. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque j'y étais depuis 2-3 mois, j'avais fait connaissance avec tous ces patients, et tous ces gens un peu isolés, âgés, seuls chez eux, qui finalement venaient me voir plus vraiment pour la médecine. Ils venaient pour discuter.
Pour la relation.
Pour la relation. Alors, l'une venait avec un clafoutis, l'autre avec un petit plat mitonné. Tenez, docteur, c'est pour vous. Il y a une véritable relation sociale qui a totalement disparu maintenant. Donc, le dernier recours... Alors, il n'y a plus de médecin généraliste. Je ne vais pas m'y étendre, tout le monde le sait. Donc, le recours maintenant, donc, quand on a quelque chose, c'est les urgences. Et puis, alors, maintenant, on n'a plus envie d'attendre. Hein, c'est tout de suite. D'ailleurs, on travaille le lendemain, autant aller aux urgences le soir, comme ça on peut aller travailler le lendemain, ou partir en week-end, ou partir en vacances. Donc on va aux urgences, c'est tellement facile, c'est ouvert. Et on sait que vous ne serez jamais rejeté.
Puisque vous parlez justement d'une partie de l'hôpital, j'ai envie de vous poser la question, parce que je vous ai entendu et lu dire que les 35 heures, c'était une catastrophe parce qu'on n'avait pas prévu la relève, que la T2A, c'était une façon de ne voir la médecine que sur le plan de la rentabilité. Et aujourd'hui, puisque vous faites encore partie de l'assistance publique, comme vous le savez, il y a des questions sur le mode d'organisation, et en particulier ce qui touche bien sûr l'idée des 35 heures. Et à cette occasion, il y a une pétition qui circule de différents médecins hospitaliers, près de 400, qui demandent à ce que on écoute, qu'on se mette autour de la table pour écouter, autour de la notion de travail en équipe et de permanence de la communication, et d'éviter ce risque de dépersonnalisation qu'un temps de travail trop rapide ou trop haché par ces RTT, etc., entraîne dans la pratique quotidienne, quelles que soient les bonnes intentions.
Mais moi, je suis évidemment tout à fait en accord avec ce manifeste. Je vous dirais, un peu par plaisanterie, mais une plaisanterie un peu amère, que je suis d'une génération qui ne peut plus vivre dans le type d'hôpital que nous avons aujourd'hui. De par ces organisations, c'est c'est devenu intolérable. Alors, en effet, il y a eu les 35 heures, qui évidemment a réduit le temps de travail infirmier. Très bien de réduire le temps de travail infirmier, c'est un métier très dur, et il était normal de réduire leur temps de travail. Mais il était promis que ce temps de travail perdu devait être compensé par des emplois supplémentaires. On ne les a jamais vus arriver. Tant et si bien que, infirmières, elles peuvent pas partir comme ça, décider de laisser tomber le malade. Donc, beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, le compte épargne-temps gonfle. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement et qui est à l'origine des grèves hebdomadaires que nous voyons et qui mettent évidemment le désordre dans l'hôpital. Mais il y a un autre phénomène, vous l'avez souligné, la T2A. L'hôpital doit être rentable ou au moins doit être à l'équilibre. Est-ce qu'un service public peut être vraiment à l'équilibre? Alors, qu'ils ne doivent pas être en total déséquilibre, ça j'y adhère.
On puisse mieux faire,
mais
oui.
Bien entendu. D'ailleurs, depuis des années maintenant, nous en avons pris conscience, après une période de grand laxisme, et nous en avons pris conscience, nous avons amélioré nos organisations pour faire mieux avec pas plus d'argent. Néanmoins, je pense que le service public, par nature, ne peut être bénéficiaire, et même peut-être bien même que par nature, il doit être déficitaire. C'est bien ça, le service rendu au public. Or, aujourd'hui, que nous dit-on? On nous dit qu'on doit avoir des activités qui rapportent de l'argent à l'hôpital. Alors, au passage, je signale quand même que quand l'hôpital ramasse, pardonnez-moi l'expression, de l'argent... L'argent, il vient d'ailleurs, c'est-à-dire des caisses de la sécurité sociale.
On est bien d'accord.
Donc plus l'hôpital gagne de l'argent, plus la sécurité sociale va être en déficit. Et tout ça, c'est bien la même chose. C'est bien la même chose. Donc il faut que l'hôpital soit rentable, c'est-à-dire qu'il faut tout codifier et faut de préférence faire des activités qui rapportent plus que d'autres. Par exemple, une activité qui m'est très chère, puisque selon la mission qui m'a été confiée, je l'ai créée à Pompidou, la prise en charge des grands polytraumatisés, ça coûte très cher. Et peut-être bien qu'il serait plus intéressant, allez, je vais aller à l'autre extrême pour être très caricatural, il est peut-être plus intéressant financièrement de faire une dizaine de varices dans la journée, plutôt que de prendre en charge un polytraumatisé qui va vous occuper le bloc opératoire pendant 14 à 16 heures, avec un coût évidemment très important.
Et vous avez quitté, vous allez quitter donc cette assistance publique auquel vous avez consacré tant d'années.
Plus de 40 ans, oui.
Et vous allez donc rejoindre le ministère de l'Intérieur et l'équipe du préfet de police pour poursuivre une vision médicale dans les thématiques, quoi, Denis Safran, de l'urgence, de la prise en charge des coups durs. Quelle va être votre mission?
Alors, je vous dirais que le ministère de l'Intérieur, et la préfecture de police d'ailleurs, mais le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'urgence. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de minute sans qu'il se passe quelque chose. Le ministère de l'Intérieur, c'est entre autres, mais pas seulement, mais c'est entre autres le ministère de la Sécurité. De la sécurité du citoyen. Et quand la sécurité du citoyen est mise en jeu, est mise à mal, immanquablement, au bout, il y a un problème médical. Dans une manifestation, lorsqu'il y a des troubles violents, il y a des problèmes médicaux. Lorsqu'on assure la sécurité d'un chef d'État, c'est parce qu'il risque de recevoir une balle ou d'être victime d'un attentat. Il y aura un problème médical. Lorsqu'il y a une inondation, il y a des problèmes médicaux. Lorsqu'il y a une grande catastrophe, un effondrement d'immeubles, mettant en jeu de grands moyens de sécurité civile, il y a des problèmes médicaux. Donc, j'ai considéré, il y a un certain nombre d'années, finalement, que au ministère de l'Intérieur, il devait y avoir des préfets, des énarques, des policiers, mais que finalement, il était peut-être intéressant que le ministre de l'Intérieur, de temps en temps, ait un éclairage médical. Par exemple, lors de la crise de la grippe aviaire, on a réuni la cellule interministérielle de crise, qui par nature est dirigée par le ministre de l'Intérieur, qui avait comme interlocuteur le ministre de la Santé, mais bon, le ministre de la Santé est entouré de médecins. Que voulez-vous que fasse le ministre de l'Intérieur, qui était bien obligé de croire tout ce qu'on lui racontait? Par conséquent, j'ai un jour proposé au ministre de l'Intérieur qu'il ait un médecin à côté pour éventuellement jeter un œil critique sur telle ou telle organisation, sécurité médicale, des grands rassemblements, festifs, politiques, religieux, sécurité médicale des policiers. sécurité médicale, de certaines grandes manifestations de grande ampleur. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque a suivi cet avis et m'a nommé conseiller à ses côtés en matière de santé, mais dans l'optique de la sécurité intérieure, ce qu'a fait également le préfet de police. Et depuis quelques années, je collabore évidemment à temps très partiel, puisque mon métier principal, c'est la direction
de la sécurité. Mais là, vous allez avoir plus de temps.
Mais là, je vais avoir plus de temps, puisque je vais quitter l'hôpital et je vais intégrer cette fonction à plein temps.
Donc, voilà, bientôt un deuxième livre après Un toubib dans l'urgence, que vous avez publié il y a quelques années aux éditions Jacob Duvernay.
Oui.
C'est une bonne façon d'avoir en même temps des vraies interrogations sur l'avenir de la médecine, sur une spécialité qui est la nécessité de réanimation, et en même temps sur la vie d'un homme qui est loin de la banalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, professeur Denis Safran.
Merci.
Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau, avec Jean-Benoît Tétu à la prise de son. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site internet de Révolution Médicale, podcaster cette émission durant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur le site internet de France Culture sur www.franceculture.fr. Demain, comme tous les jours à 14h, vous avez rendez-vous avec Culture Science et vous pouvez retrouver Planète Terre de Sylvain Cannes.